Assises spéciales de Paris pour les attentats du 13 novembre, 9h passées de 10 minutes à Paris. Restez à l'écoute de la Radio du Monde. Prochain rendez-vous avec l'information dans une demi-heure.
Radio G, 101.5 FM. Impromptu littéraire.
Voici quelques pages écrites par Anne Brunswick sur les Juifs de Sibérie,
poétesse et universitaire, dont nous avons choisi de vous donner le témoignage.
Amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous vous proposons la lecture à plusieurs voix.
Les femmes en avaient payé le plus lourd tribut. Le cas de Yissou.
Pour amener un peu de légèreté dans cet univers marqué par une histoire souvent terrible.
Je voudrais choisir un extrait du chapitre 9, intitulé.
Assise près de l'incubateur. Espèce de navire miniature en plexiglas.
On sélectionne la main-d'œuvre destinée aux mines, aux chantiers, aux coupes de bois.
Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez.
Philippe Jacotet fait partie des voix majeures de la poésie contemporaine française pour le siècle dernier et le début de celui-ci. Né en 1925, décédé début 2021, il est l'auteur d'une vingtaine de recueils chez divers éditeurs, principalement Gallimard. Il a reçu de nombreux prix, a été le sujet de nombreux essais ou hommages. Il a été publié de son vivant dans la Pléiade. C'est pour beaucoup de ses textes un poète de la nature, non pas pour une simple description, mais afin de la rapporter à la conduite de sa vie, de la confronter à lui-même, à sa propre nature. Il parle à cet effet régulièrement de leçons. Il résidait dans la Drôme depuis les années 50, y arpentant la campagne. C'est aussi un poète quelque peu hanté par la finitude et la mort, qu'il repousse par la recherche de ce qu'il appelle l'immédiat. Il utilise un langage simple mais réflexif, attentif, constamment préoccupé de vérité, de justesse et de retour, d'éloignement de l'effet. Il a recours le plus souvent à la prose poétique. Le lire, c'est entrer en une sorte de compagnonnage, tant sa rumeur intérieure rejoint la nôtre, tant il est notre proche, notre semblable face aux manifestations de la nature, mais aussi au devant de la nécessité de mener au mieux sa vie, ici et maintenant, de rechercher une lumière.
Toute fleur qui s'ouvre, on dirait qu'elle m'ouvre les yeux dans l'inattention, sans qu'il y ait aucun acte de volonté, d'un côté ni de l'autre. Elle ouvre en s'ouvrant autre chose, beaucoup plus qu'elle-même. C'est pressentir cela qui vous surprend et vous donne de la joie. Alors même qu'il vous arrive désormais par instant de trembler, comme quelqu'un qui a peur et qui croit ou prétend ne pas savoir pourquoi.
Rien qu'une touffe de violette pâle, une touffe de ces fleurs faibles et presque fades, et un enfant jouant dans le jardin. Ce jour-là, en ce février-là, pas si lointain et tout de même perdu comme tous les autres jours de sa vie qu'on ne ressaisirait jamais, un bref instant, elles m'auront désencombré la vue. Fleurs, parmi les plus insignifiantes et les plus cachées, infimes, à la limite de la fadeur, nées de la terre ameublie par les dernières neiges de l'hiver. Et comment, si frêles, peuvent-elles seulement apparaître, sortir de terre, tenir debout ?
Les pivoines n'ont pas duré. Tout juste le temps d'être de petites balles, de petits globes lisses et denses, quelques jours. Puis, cédant à une poussée intérieure, de s'ouvrir, de se déchiffonner, comme autant d'aubes autour d'un poudroiement doré de soleil. Comme autant de robes, si l'on veut, si vous y incite l'insistante rêverie. Opulente et légère, ainsi que certains nuages. Une explosion relativement lente et parfaitement silencieuse. La grâce dérobée des fleurs. Parce qu'elles s'inclinent sous leur propre poids, certaines jusqu'à terre, on dirait qu'elles vous saluent, quand on voudrait les avoir soi-même, le premier, salué. Pourquoi donc y a-t-il des fleurs ? Elles s'ouvrent, elles se déploient, comme on voudrait que le fasse le temps, notre pensée, nos vies.
La pivoine, la rose, le mufflier, l'érigeron, le souci. La pivoine, faisant jaillir d'une enveloppe satinée une mousse de pétales chiffonnés. Ces bouches de la terre que l'on respire au lieu de les baiser. Cette façon de parler qu'à la terre, par explosion plus ou moins ordonnée de couleurs, déploiement de cercles, d'étoiles, gonflement de sphères et quelquefois formation d'édifices non moins frêles mais plus compliqués. Pavillons, grottes pour des divinités poudrées ou des emblèmes, fourrure, langue, lèvres, mais toujours et partout une absolue candeur. Comme une exaltation angélique des mystères du corps, des plus petits mouvements de l'amour. Les iris poussent au hasard dans un enclos d'herbes hautes, couleur mauve ou violet sombre, sortis de leur papier de soie parmi leurs dures lames vertes, ou ceux de couleur jaune qui poussent dans les marais et les canaux. Et ces toutes petites fleurs basses, jaunes ou roses, qui s'accrochent aux pierres, aux rochers, qui leur tiennent lieu de pelage, doux, gras et chaud, modestes et tenaces. Au contraire, dans les hautes herbes, des fleurs à peine effleurées que défleuries, dociles au moindre souffle, comme ces coquelicots sur de longues tiges, comble de fragilité, petit pavillon bref, éphémère, pour une fête populaire, une décoration de village. Mais de toute façon, toujours c'est une fête, une célébration, une forme d'approbation, jamais un refus ni un pleur. Leur équilibre d'un instant, soit qu'elle retombe en grappe, soit qu'elle monte en fusée, soit qu'elle se déploie ou s'évase. Elles sont aussi multiples, éparses, gaspillées, mal défendues, pareilles à de petites proclamations dispensées un peu partout et dont beaucoup ne seront jamais lues.
Travaillant au jardin, je vois soudain, à deux pas, un rouge-gorge. On dirait qu'il veut vous parler, au moins vous tenir compagnie. Minuscule piéton, victime toute désignée des chats. Comment montrer la couleur de sa gorge ? Couleur moins proche du rose ou du pourpre ou du rouge sang que du rouge brique, si ce mot n'évoquait une idée de mur, de pierre même, un bruit de pierre cassante qu'il faut oublier, au profit de ce qu'il évoquerait aussi de feu apprivoisé, de reflets de feu. Couleur que l'on dirait comme amicale, sans plus rien de ce que le rouge peut avoir de brûlant, de cruel, de guerrier ou de triomphant. L'oiseau porte dans son plumage, qui est couleur de la terre sur laquelle il aime tant à marcher, cette sorte de couleur de feu apprivoisé, couleur de ciel au couchant. Ce n'est presque rien, comme cet oiseau n'est presque rien, et cet instant, et ses tâches, et ses paroles. À peine une braise qui sautillerait, ou un petit porte-drapeau, messager sans vrai message. L'étrangeté insondable des couleurs. Cela ne pèserait presque rien, même dans une main d'enfant. Cependant, on vous parvient aux oreilles, par intermittence, le bruit discret, comme prudent, des dernières feuilles du figuier. Celui plus ample, mais plus lointain, des hauts platanes d'un parc. C'est la rumeur du vent invisible, le bruit de l'invisible, à l'abri duquel le rouge-gorge et moi vaquons à nos besognes. Lui, le porte-lanterne, l'imprudent sirop d'un chat. Cet oiseau piéton, que l'on est tellement tenté d'imaginer amical et même complice, tout à la fois tranquille et comme timide, moins espiègle que beaucoup d'autres, cet oiseau proche, en qui l'on verrait volontiers l'âme réincarnée d'un enfant, ami des branches souples du figuier et de la terre soigneusement peignée par le râteau. Je ne vais pas rêver qu'il me serve jamais de guide à la fin du jour, ni qu'il me soit du moindre secours quand j'aurai besoin de secours. C'est aujourd'hui, c'est hier qu'il m'a aidé, sans d'ailleurs se préoccuper plus que cela de moi, malgré les apparences. Simplement en étant là, vivant, visible sous le ciel visible et vivant, avec la drôle de parole involontaire de sa tache rouge que j'ai lue avec surprise, comme j'en ai lu tant d'autres, sans mieux les comprendre. C'est donc aujourd'hui, sans attendre, qu'il me faut noter, tel que je l'ai reçu, ce message qui n'en est pas un tant que je suis en état de le faire.
Flambe dans les saules. Il a flambé. Et si quelque chose comme cela suffisait pour sortir de la tombe avant même d'y avoir été couché?
Est-ce le berceau de l'aube? C'est du moins d'abord des couleurs. Un nid de couleurs, fines et douces comme celles qu'assemble la naissance du jour et pourtant différentes. Couleurs, ou plutôt nuances, gradations sans rupture, nuages de terre et de lait qui se mêlent ou mieux s'épousent sous ce collier d'ardoise. Nuages assoupis, nuages couchés dans la cage tout au fond de la chambre paysanne, nœuds de fumée dans la fumée. Mais déjà, l'œil a démêlé que c'est aussi un corps tiède, vivant, des courbes de laiteuse terre, que c'est une gorge qui respire une douceur, une langueur plumeuse. On la dirait qui dort, un nuage endormi dans son haleine, nuage ou plus confusément encore, nu. Brusquement, par quelque alerte éveillée, tirée du rêve, battent les ailes, ouvertes un instant comme des drapeaux qui claquent ou des linges. Alors, on découvre la voluptueuse envolée, ce lit de plumes ailées, cette langueur enhardie. Où serait-ce une barque, sous ses voiles dressées, qui cacherait en l'emportant quelques reines couchées dans le bouillonnement de ses draps, de l'écume. mais au miroir embué d'une nuit, plus tard, peut-être en rêve ou entre veille et sommeil, j'ai connu de qui tu pouvais être aussi l'image. De quelle femme si indolente, la voix rauque et de peau si blanche, les dents presque transparentes entre des lèvres pâles, qu'on s'étonne, tourne-t-elle un instant, mais sans hâte, les yeux vers vous, que le brun de son iris puisse à ce point vous brûler. Mais puisque ce n'est pas un feu, même pas enfermé dans une lanterne d'ambre, puisque c'est seulement la couleur de ce qu'un feu longtemps n'a fait qu'approcher, frôler, puisque c'est le reflet seulement d'un très long feu lointain, puisque ce n'est que la caresse et peut-être encore imaginaire du feu, elle est donc bien, par son teint laiteux comme par ce double iris brun, déjà détourné ou voilé par une paupière lasse, toute langueur. Tourterelle turque, si bien nommée, odalisque portant à la nuque ce collier d'ardoise qui signifie peut-être « serve de la nuit ». L'aube n'est pas autre chose que ce qui se prépare, encore pur, à brûler. L'aube est celle qui dit « Attends encore un peu et je m'enflamme », le bourgeon de quelque incendie. Mais celle-ci est plutôt ce que le feu ne touche qu'à distance, ce qui est séparé du feu ou par la distance ou par le temps ou par le souvenir, le mélange de l'ardeur et de la distance, la mémoire de l'amour qui coulerait interminablement en nous. L'oiseau qui se dressait ainsi sur le point ridé, ce n'était que mon corps qui l'avait un instant rêvé, pareil à cette femme. Ce n'était que lui qui avait trouvé ses liens, ses mots entre eux. Je crois que si je clignais des yeux, comme on fait pour ne pas être embarrassé par les détails d'une peinture, jusqu'à ne plus voir qu'une lueur sur cette main, une flamme vacillante, je serais plus près de ce que j'avais tout d'abord éprouvé, le trouble, la joie d'une annonciation à peine saisissable ou l'entrebâillement de la porte du temps. Plus tard encore, j'ai vu un oiseau de même espèce habiter mon jardin, marcher sur ses murs sans être inquiété par les chats, et quelquefois il était dans le figuier que l'automne jaunissait, éclairait, plus beau qu'aucun fruit, libre comme une pensée silencieuse dans le feuillage du cœur vieillissant. Parfaitement tranquille en cet abri, bien que sans aucune attache et par sa voix semblant absorber et traduire et faire couler toute la douceur de ses journées, n'étant plus, si je fermais tout à fait les yeux, qu'une cascade assourdie par la brume. C'est le tout à fait simple qui est impossible à dire. Et pourtant, je le vois et je le sens. Et il n'est pas de pensée si puissante, si meurtrière soit-elle, qui m'en ait pu disjoindre jusqu'ici. Oiseau favorable, tu voyages dans ta patrie. Tu te poses ici ou là, ou tu voles un court instant. Peut-être t'éloignes-tu la nuit davantage. Mais quoi que tu fasses, c'est comme si rien ne manquait, comme si tu étais la voix qui monte et descend les degrés du monde, entre terre et ciel, jamais en dehors, toujours dans le globe infini, libre, mais au-dedans, là, tout proche, à la fourche des branches argentées, n'attendant ni ne fuyant rien. Voyageur qu'une seconde de joie, sans aucune raison, dérobe au mouvement du voyage pour le laisser poser, arrêter, où ? Dans la lumière des feuilles qui bientôt vont tomber pour faire place au ciel, au temps doré d'octobre, vêtu d'air, incapable soudain de plus entendre aucun mot, comme aller, ou partir, ou frontière, ou étranger, bienheureux vêtu de sa lumière natale.
Silence presque absolu qui se fait parfois au dehors, même dans une grande ville, à la fin de la nuit, ne m'est jamais apparu comme un bonheur. J'en étais effrayé plutôt, et je reprendrai un jour l'examen de ces moments parfois curieusement difficiles. Il semble que dans l'espèce de mur qui nous protège se soit ouvert brusquement une faille derrière laquelle s'amassent, mais sans entrer, les troupes du vide, de gros fantômes cotonneux. Tout au contraire, en cette nuit de lune dont je veux parler, le silence semblait être un autre nom pour l'espace, c'est-à-dire que les bruits très rares, ou plutôt les notes qui étaient perçues dans la fosse nocturne, et en particulier le cri intermittent d'une chouette, ne s'élevaient que pour laisser entendre des distances, des intervalles, et bâtir une maison légère, immense et transparente. Mais il en était de même pour les astres. Tenté d'abord de les comparer à un filet scintillant au-dessus de moi, je voyais bien que l'image était trop concrète, peu m'importait qu'elle fût banale, mais qu'ils ne fussent que des signes, des nombres, des figures, je ne pouvais l'admettre davantage. Il est sûr, toutefois, que d'une certaine manière, ils étaient reliés. Ils ressemblaient au cri de la chouette. Mais je repenserai d'abord à d'autres éléments de cette nuit. Le Ventoux n'était plus qu'une vapeur. Il n'était lui-même presque plus rien que l'indication du lointain et la dernière partie perceptible de la Terre. Mais en réalité, toutes les choses qu'on pouvait discerner cette nuit-là, c'est-à-dire simplement des arbres dans les champs, une meule peut-être, une ou deux maisons et plus loin des collines, toutes ces choses, claires ou noires, selon leur position par rapport à la lune, ne semblaient plus simplement les habitants du jour surpris dans leurs vêtements de sommeil, mais de vraies créations de la lumière lunaire. Et à toutes ces choses, au silence, comme aux rares étoiles et aux feuilles, les mêmes images venaient s'attacher dans mon esprit fasciné sans jamais le satisfaire. Je pensais à de la glace, à l'univers des glaciers dont j'ai de profonds et lointains souvenirs, mais le vent très faible qui faisait s'élever jusqu'au mur éblouissant de la maison l'odeur de l'herbe coupée chassait ces trop froides images. Je pensais à de la brume, mais tout était limpide. Je pensais à la fraîcheur des torrents que j'avais toujours aimés, cette foudre d'eau dans les rocs, mais c'est alors l'extrême immobilité du paysage que je troublais de trop de turbulences. Les mots légers, clairs, transparents me revenaient sans cesse à l'esprit avec l'idée des éléments air, eau et lumière. Mais ces mots chargés de tant de sens ne suffisaient pas. Il eût fallu encore les situer les uns par rapport aux autres pour qu'entre eux aussi s'établissent de mélodieuses, mais pas trop mélodieuses distances, et il fallait continuer à chercher. À quoi pensais-je encore dans ce bonheur-là? Eh bien, si absurde que cela puisse paraître, l'idée me vint de ce qu'on appelle le royaume des morts. Sans doute m'égarais-je ainsi dans le rêve, et dans toutes les illusions du rêve. Mais cette tentation-là était aussi incluse dans la nuit lunaire. Et si je ne poursuis que la vérité d'une expérience, je devais aussi m'y abandonner. Un instant donc, il me parut que, tel le héros d'un conte, j'avais ouvert par mégarde une porte sur un lieu jusqu'alors inconnu, ou même interdit, et que je voyais, avec une parfaite tranquillité d'esprit, le monde des morts. Ce n'était pas une vision funèbre, pas davantage une imagerie pieuse. Cela ne ressemblait, je crois, à aucune tradition sur l'au-delà. Et je dois encore préciser que j'y avais accédé avec l'aisance et le naturel propre aux événements fabuleux. Les choses n'avaient plus de corps, ou du moins ce qui s'attache pour nous à la pensée du corps, moiteur, fatigue, poids, caducité, corruption. Elles en étaient délivrées, véritables oiseaux. Mais cette délivrance ne les faisait pas pour autant spectrales ou chimériques. Je n'avais pas sous les yeux, du moins je le ressentais ainsi, de grotesques bâtisses de fumée. Comme les astres, je le redis, elles n'étaient ni des rêves ni des notions. Comme le Ventoux, splendide encore que presque imperceptible, elles étaient toujours la terre et cependant la lune les avait changées. Il me sembla que je commençais à mieux comprendre toutes les images qui m'étaient passées par la tête à leur occasion et la joie tranquille où je me trouvais de les voir. Une terre plus libre, plus transparente, plus paisible que la terre. Un espace émané de ce monde et pourtant plus intime. une vie à l'intérieur de la vie, des figures de la lumière suspendues entre le soir et le matin, le chagrin et l'ivresse, le pays des morts sans doute teinté de noir, mais quand même sans horreur, pas un bruit qui ne parut juste et nécessaire. N'étais-je pas entré cette nuit-là sur les pas de la lune, à l'intérieur d'un poème ? J'allais poser le pied dans l'herbe, n'ayant plus peur, prêt à tous les changements, altérations et métamorphoses qui pourraient m'advenir.
J'observais ceci plus particulièrement à propos des arbres et de la rivière. Il me parut que si les arbres et la rivière m'avaient fasciné, ce n'était pas parce qu'ils ressemblaient à autre chose que j'aurais déjà beaucoup aimé, des jeunes filles nues ou seulement leur rire dans un jardin, bien que cela aussi fût présent, plus ou moins, en surface. Ce n'était pas non plus parce qu'ils semblaient susceptibles de changer ou de s'alléger, mais essentiellement, du moins ai-je pu le croire, parce que j'assistais alors à la rencontre d'éléments simples, parce que le bois et l'eau me faisaient découvrir, ou le vent, ou la lumière, ou tous les deux ensemble. C'est-à-dire que le visible me révélait l'invisible, l'obstacle, le mouvement et la direction du mouvement. Là, je découvrais non pas un mirage reflétant mes profondeurs et les dévoilant, mais un événement tout à fait réel et simple, particulièrement simple, puisqu'il s'agissait des choses reconnues parmi les plus communes, et que cela se passait en outre soit un peu au-dessus du sol, pour les arbres, soit vraiment dans la terre, dans l'herbe, à la portée de n'importe quel regard, même distrait. Je crus comprendre alors la nécessité pour nos yeux, et non moins pour notre être, âme, cœur, esprit, comme on voudra nommer les formes de notre vie intérieure, d'un obstacle et d'une limite, donc aussi bien d'une fin, pour que cet être pût précisément briller et même tout bonnement vivre. Je crus comprendre un instant qu'il nous fallait bénir cette mort, sans laquelle la lumière et l'amour, de même que nos paroles, ne pourraient plus avoir aucun sens, ni d'ailleurs aucune possibilité d'existence.
C'est sous le toit ajouré des arbres. À peine est-on entré dans cet abri où le soleil ne brûle plus, dans la maison qui n'est jamais fermée, et il y a une fraîcheur, un parfum inséparable l'un de l'autre. Le ciel descend dans les feuilles. Sous les pins, l'ombre est sans épaisseur. C'est le camp des oiseaux. Leur envol paraît brusque, accompagné souvent de criailleries. Ensuite, au contraire, même volant vite, ils semblent calmes entre les troncs. Leur vol s'efface à mesure. C'est aussi comme si l'on marchait dans sa propre maison. À mi-hauteur d'une pente assez raide, sous les pins, tout à côté du sentier discret, le terrain se creuse. Il s'y forme une espèce de vague tranchée au bout de laquelle se dresse un mur étroit. C'est de la roche, toute bossuée, mais à peine visible sous la mousse qui la couvre. C'est comme une très ancienne porte, car au pied du mur, il y a une ouverture, une bouche, comme aux fontaines, à ras du sol, où s'entassent des feuilles mortes, où le pied glisse, hésite. Il a fallu des jours de neige drue, suivi de plusieurs semaines de dégel et de pluie pour que la bouche reparle pour la première fois depuis très longtemps, depuis que je m'arrête sur ce seuil. Alors tout à coup, sans qu'on s'y attende, on a entendu ces gouttes multipliées et on ne sait plus à présent si on les a vues aussi ou s'il a suffi de les entendre pour s'imaginer les avoir vues, cristallines, froides, aiguës, minuscules, nombreuses, limpides, hors de la mousse qui est sombre et tendre. Une sorte de carillon infime et décidé dont les cloches seraient éparpillées à différentes hauteurs du rocher et teinteraient sans ordre apparent, gaies et pourtant cachées, parlant à la surface de la terre. Et l'on est contraint de s'arrêter, de faire silence, si l'on parlait, sans pour autant se mettre à genoux. Simplement, on se tait. On sourit peut-être comme à ces souvenirs qui s'allument dans l'obscurité de la tête quelquefois. Les notes ne sont ni aussi nombreuses ni aussi pressées que l'on pourrait s'y attendre. Il y a du temps entre elles, des intervalles irréguliers. On dirait des paroles d'un autre monde et qu'on aurait à peine le droit d'écouter. Trop claires pour nous, trop nettes, paroles du ciel à la terre. Comme autant de « oui » ronds, lumineux, décidés, tout près de nous, en même temps comme très loin, comme au-delà. La fable des sources. Toute cette sombre et solide épaisseur qui porte tout. La pierre de fondation, le socle. Et là-dessus, ce brun, ce rougeâtre, ce noir, ce granuleux mélange, cet amalgame plus ou moins lourd et serré. La terre où si rapidement toute pourriture se nettoie, se répare, s'assainit. Assez chaude, assez douce pour que l'on s'y allonge, assez stable encore pour que l'on se fie à elle. L'immense lit fumant en hiver, couvert de soie, de damas, de velours en été. Et là, tout à coup, suintant de la surface, naissant des profondeurs comme la perle se forme de la nacre, comme la plante se hasarde, le bourgeon, la gemme, tout à coup, et il semble que ce soit soudain, un jour s'ouvrent ces gouttes qu'on entend seulement. Terre fleurie d'eau, terre où l'eau germe un jour. On est debout à cette porte, appuyé à ces montants de pierres immémoriales et dont la chute vous briserait, comme un pèlerin écoutant matine, mais sonné dans un espace inconnu pour un dieu encore sans nom, ou comme celui qui entend pour la toute première fois des voix conversées, il ne sait pas où, près de lui pourtant, mais il ne parvient pas à les localiser. Ce devait être des enfants, une seule enfant qui chantonnait. Toutefois, c'était autre chose sans quoi il n'y aurait ni distance, ni air, ni mouvement. Le lointain qui déchire, qui appelle, source fabuleuse, surplus du grenier des eaux.
En fait, de toutes mes incertitudes, la moindre, la moins éloignée d'un commencement de foi, est celle que m'a donnée l'expérience poétique. C'est la pensée qu'il y a de l'inconnu, de l'insaisissable à la source, au foyer même de notre être. Mais je ne puis attribuer à cet inconnu, à cela, aucun des noms dont l'histoire l'a nommé tour à tour. Ne peut-il donc me donner aucune leçon, hors de la poésie où il parle, aucune directive dans la conduite de ma vie ?
Parler est facile, et tracer des mots sur la page, en règle générale, est risquer peu de choses. Un ouvrage de dentelière, calfeutré, paisible. On a pu même demander à la bougie une clarté plus douce, plus trompeuse. Tous les mots sont écrits de la même encre. Fleurs et peur, par exemple, sont presque pareils. Et j'aurais beau répéter 100 du haut en bas de la page, elle n'en sera pas tachée, ni moi blessée. Aussi arrive-t-il qu'on prenne ce jeu en horreur, qu'on n'en comprenne plus ce qu'on a voulu faire en y jouant. Au lieu de se risquer dehors, et de faire meilleur usage de ses mains. Cela, c'est quand on ne peut plus se dérober à la douleur, qu'elle ressemble à quelqu'un qui approche en déchirant les brumes dont on s'enveloppe, abattant un à un les obstacles, traversant la distance de plus en plus faible, si près soudain qu'on ne voit plus que son mufle plus large que le ciel. Parler alors semble mensonge, ou pire, lâche insulte à la douleur et gaspillage du peu de temps et de force qui nous reste.
Parler, pourtant, est autre chose, quelquefois, que se couvrir d'un bouclier d'air ou de paille. Quelquefois, c'est comme en avril, aux premières tiédeurs, quand chaque arbre se change en source, quand la nuit semble ruisseler de voix comme une grotte, à croire qu'il y a mieux à faire dans l'obscurité des frais feuillages que dormir. Cela monte de vous comme une sorte de bonheur, comme s'il ne fallait qu'il fallût dépenser un excès de vigueur et rendre largement à l'air l'ivresse d'avoir bu au verre fragile de l'aube. Parler ainsi, ce qui eût non chanté jadis et que l'on ose à peine maintenant, est-ce mensonge, illusion? Pourtant, c'est par les yeux ouverts que se nourrit cette parole, comme l'arbre par ses feuilles. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on aura vu depuis l'enfance, précipité au fond de nous, brassé, peut-être déformé ou bientôt oublié, le convoi du petit garçon de l'école au cimetière sous la pluie, une très vieille dame en noir assise à la haute fenêtre d'où elle surveille l'échoppe du cellier, un chien jaune appelé Pyram dans le jardin où un mur d'espalier répercute l'écho d'une fête de fusils, fragments, débris d'années. Tout cela qui remonte en paroles tellement allégées, affinées qu'on imagine à sa suite gaie même la mort.
Y aurait-il des choses qui habitent les mots plus volontiers, qui s'accordent avec eux, ces moments de bonheur qu'on retrouve dans les poèmes, avec bonheur, une lumière qui franchit les mots comme en les effaçant, et d'autres choses qui se cabrent contre eux, les altèrent, qui les détruisent, comme si la parole rejetait la mort, ou plutôt que la mort fit pourrir même les mots. J'aurais voulu parler sans image, simplement pousser la porte. J'ai trop de crainte pour cela, d'incertitude, parfois de pitié. On ne vit pas longtemps comme les oiseaux dans l'évidence du ciel et retombé à terre. On ne voit plus en eux précisément que des images ou des rêves.
Philippe Jacotet était par ailleurs critique littéraire et traducteur, d'Homère notamment pour une version nouvelle de l'Odyssée, mais aussi de figures comme Goethe, Hölderlin, Ungaretti, Rilke, Musil, Thomas Mann. Il a également fait paraître ce qu'on pourrait appeler ses journaux de bord sous le titre de Carnet ou de La Semaison. Il y évoque les grands auteurs, la musique, ses rencontres avec des poètes, la ronde des saisons. Si vous souhaitez entrer plus avant dans l'œuvre de Philippe Jacotet, vous trouverez la plupart des textes que nous avons lus au cours de cette émission dans le recueil « L'encre serait de l'ombre » dans la collection de poche Poésie Gallimard.
Les textes que vous avez entendus lors de cet impromptu littéraire ont été lus par Antoine, Dominique et Paul. Les extraits musicaux sont tirés du « Réveil des oiseaux » d'Olivier Messiaen. Claude Michel a assuré le montage de l'émission.
Chers auditeurs, si vous souhaitez réagir à cette émission, en connaître les horaires, la télécharger, nous rejoindre, rendez-vous sur le site de Radio G 101.5 ou sur le site de l'émission www.impromptu.fr. Vous nous y retrouverez.